Nous allons tenter de démêler le vrai du faux, mais est-ce possible? On va poser des questions, on va tenter de comprendre un peu plus ce qui se passe en Iran. À travers un média qui est extraordinaire, Vive les médias indépendants, qui nous offre une autre perspective, bien sûr, omertamedia.fr. Avec le grand Régis Le Sommier qui est avec nous ce matin à Radio X. Monsieur Le Sommier, bienvenue.
Merci de me recevoir.
Démêlons le vrai du faux, si c'est possible. Est-ce qu'il y a des négociations entre les États-Unis et l'Iran pour revenir sur l'une des dernières déclarations de Donald Trump?
Écoutez, là, au moment où nous nous parlons, là, il n'y a pas de négociation. Il y a des projets de négociation. Des projets de négociation, on va dire, tout le monde pense que quand il y a une guerre, forcément, ça se termine par une négociation et une paix à un moment ou à un autre. Là, tout ça est extrêmement hypothétique. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on sent, depuis un petit moment déjà, un empressement de la part de Donald Trump à vouloir s'extirper de ce conflit, le conclure, déclarer victoire, planter le drapeau et passer à autre chose. Je pense que Donald Trump a compris que il avait fait une erreur, si ce n'est peut-être la bourde qui pourrait lui coûter sa présidence à 8 mois des midterms, en embarquant son pays dans une aventure militaire, une guerre d'attrition, comme il faut la qualifier précisément, dans laquelle l'avantage de la puissance de feu dont dispose Trump et son allié Netanyahou est en train de se heurter à une variable classique dans les guerres asymétriques qui est la variable du temps. Et quand l'ennemi résiste, c'est-à-dire quand il ne disparaît pas, à la fin, la survie du régime iranien, si les négociations s'ouvrent, voudra dire quelque part que les Iraniens ont gagné cette guerre.
Oui, parce qu'il a promis un changement de régime. Et changement de régime, il n'y a pas. Je peux comprendre que plusieurs mollahs ont été éliminés avec plusieurs conseillers. Mais il n'en demeure pas moins que ce matin, la garde révolutionnaire, les gardiens de la révolution sont en contrôle. Est-ce à dire qu'on se retrouve finalement avec un genre de Hamas format géant?
Hamas format géant, même, je dirais, encore pire. Bon. Oui, format géant, si c'est Hamas puissance 10.
Oui.
Mais je rajouterai une chose, c'est que à la différence des adversaires que les États-Unis et Israël ont eu à affronter dans leur histoire contemporaine, hein, je ne parle pas des 50 dernières années pour ce qui est des États-Unis, les talibans, Al-Qaïda en Irak, Daesh, pour ce qui est d'Israël, le Hamas et le Hezbollah. On était vraiment dans de l'affrontement classique avec un rapport du faible au fort et une utilisation des faiblesses du fort et un contournement des forces du fort de la part du faible. Voilà, pour résumer. Mais jamais on n'avait vu, par exemple, quand les Américains et les Israéliens ont frappé samedi matin l'Institut de recherche nucléaire de Natanz, une riposte sur la ville à côté de laquelle se trouve la centrale nucléaire israélienne, le soir même, par des tirs de missiles. C'est-à-dire que là, c'est du tac au tac. Et ça veut dire plus dans le même week-end, qui était chargé le week-end dernier. On apprend de sources américaines, hein, ça n'a pas été confirmé par l'Iran, etc., mais que les Iraniens auraient envoyé 2 missiles. L'un se serait abîmé en mer, l'autre aurait été détruit par un destroyer, vers la base de Diego Garcia, qui est la base de départ des B-2 américains, qui se trouve, en termes de distance, à 3800 km de Téhéran. Donc là on a un adversaire qui n'est pas le Hamas, qui n'est pas le Hezbollah, qui n'est pas les talibans, qui n'est pas Daesh. Vous voyez, on est face à quelqu'un qui a les moyens de sa politique, mais qui a choisi l'asymétrie délibérément et qui a utilisé et perfectionné et, affiné des domaines dans lesquels les Américains n'ont pas l'équivalent. En balistique, les Américains ont des très bons missiles, hein, mais les Iraniens semblent, par exemple, maîtriser les missiles à sous-munitions sur Israël en ce moment. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé au début de la guerre des missiles pas très très performants, de façon à user la défense antiaérienne, les défenses antiaériennes, parce qu'il y a aussi les pays arabes qui sont visés, et ces défenses antiaériennes sont à l'agonie aujourd'hui. Et en Israël, il y a beaucoup de problèmes parce que de plus en plus de missiles passent. Alors, il y a moins de missiles iraniens tirés, mais ils font coup au but pratiquement à chaque fois. Donc, c'est vraiment problématique. Ça commence à être critique. Voilà.
Donc, de plus en plus, les Américains, et ça, c'est sans parler des impératifs de politique domestique, où vous avez, pour Trump, une érosion de ses appuis, vous avez l'augmentation du prix de l'essence, vous avez de la bisbille au sein de MAGA, vous avez différents trucs qui opèrent dans un univers électoral qui va devenir de plus en plus périlleux pour lui. Donc, il y a une pression additionnelle qui s'opère en politique domestique dans un régime démocratique comme les États-Unis. Oui. Ce qu'on n'a pas en politique domestique, il n'y a pas les mêmes impératifs dans une dictature comme, par exemple, en Iran. Donc, ça met Trump en position de faiblesse. Et là, il joue les différentes cartes. Analysons ensemble les différentes cartes jouées par Trump. Hier, il disait... J'ai reçu un cadeau de l'Iran. C'est une sortie un peu bizarre, là. Ça a rapport avec le pétrole. Oui. J'ai sorti un cadeau. En même temps, on annonce le déploiement d'une centaine de paratroopers au Moyen-Orient. Qu'en est-il? Est-ce qu'il veut un débarquement sur l'île de Karg? Il annonce du même moment... On apprend du même moment que l'Arabie saoudite encourage Trump à continuer la guerre. Donc, on joue différents rôles sur différents tableaux, là. Expliquez, il y a du brouillard, là.
Ah, le brouillard de la guerre, c'est comme ça qu'on dit. Bien sûr, on joue plusieurs... Alors chacun essaye de tirer la couverture à lui, en tout cas d'essayer de faire d'une situation compliquée et d'attirer à son avantage. Et Donald Trump essaye d'acheter la fin de la guerre. Sauf que la fin d'une guerre, ça ne s'achète pas. Qu'en face, il a un adversaire redoutable... Et qui, dont le maintien en vie et la capacité à continuer à frapper démontre chaque jour que, contrairement à ce que dit Donald Trump, l'Iran n'est pas anéanti à 95%, sa marine détruite, son aviation clouée au sol. Bref, tout ce qu'on voit aujourd'hui à travers ces vidéos qui nous parviennent, c'est au contraire une complexification de la situation et une capacité de frappe renouvelée de l'Iran. Et donc face à ça, on se rend bien compte que... Je vais vous donner un exemple. C'est les États-Unis ont envoyé cette nuit une liste de propositions via le Pakistan qui sert de médiateur aujourd'hui, hein, chez qui il y aura peut-être une séance prochaine de négociations. Et on va voir avec qui, parce que c'est important. Mais les États-Unis ont envoyé ces premières propositions pour la négociation, propositions qui se concentrent presque exclusivement, mais pas que, sur la question du nucléaire. Donc on a l'impression qu'on repart d'une position de négociation précédente, mais à la 12e proposition, il y a lever des sanctions économiques. Ce qui est un cadeau majeur fait aux Iraniens, ce qui montre que les Américains sont quand même sérieux dans l'idée d'en finir avec cette guerre. Ça, c'est important. L'autre chose très très importante, c'est qui vont être les négociateurs. Et là, le nom de J.D. Vance est apparu. On sait que J.D. Vance, depuis le début de la guerre, est très sceptique quant à l'intervention. Je pense que même intimement, il est contre. Il était pas du tout favorable.
Un vrai MAGA, hein, Régis?
Oui, voilà. Oui. Tout à fait. Et donc là, on le voit arriver. Et on se rend compte qu'en fait, les Iraniens refuseront que ce soit Steve Witkoff et Jared Kushner qui, une nouvelle fois, mènent la négociation, parce que les deux fois précédentes, la négociation se menait, et pendant la négociation, Israël, en juin 2025, a attaqué, et pendant la négociation, le 28 février, les États-Unis et Israël ont attaqué. Donc,
ils sont qualifiés de non fiables.
Tout à fait. Mais c'est l'Iran qui choisit son négociateur. Et les États-Unis ont l'air de dire oui. Ce qui est quand même un signe intéressant de qui est en position de force et qui est en position de faiblesse. Si l'Iran était ravagé et supplier les États-Unis comme la, comment est indiqué Donald Trump en disant they're begging for a deal, they're begging for negotiation. Bah, ils n'imposeraient pas le négociateur qu'ils veulent d'en face, vous voyez. Donc ça, c'est quand même des signes extrêmement inquiétants sur d'abord la possibilité que ça se fasse. Mais si ça se fait, on met Jed Evans parce que on a envie que Donald Trump, je pense, qui n'est pas complètement suicidaire, a envie que sa base MAGA lui pardonne. De pouvoir la récupérer et espère secrètement se sortir de cette...
Et lui, ultimement, se ramasse des crédits s'il se présente à l'investiture républicaine dans un an. Ça va commencer à bouillonner. Il se ramasse des crédits auprès de Magan en disant « Vous voyez, je me suis levé et j'ai... On s'est retiré grâce à moi de ce conflit-là. J'injecte d'autres données dans le ragoût. La Chine. Parlons de la Chine. Et les pressions... Il y a des pressions faites par la Chine et par la Russie à différents égards. Oui. Les intérêts sont divergents, mais commençons par la Chine. Comment vous voyez la Chine dans tout ça?
La Chine, si vous voulez, d'abord, elle a un intérêt majeur, mais auquel Donald Trump a surtout hésité de toucher, qui est l'écoulement du pétrole via le détroit d'Ormuz. On dit le détroit est bloqué, il n'est pas du tout bloqué pour la sortie du pétrole iranien. Le Wall Street Journal récemment a fait un article expliquant que l'Iran, depuis le début du conflit, sortait plus de pétrole depuis le détroit d'Ormuz qu'avant le conflit. Et ce pétrole va où? Évidemment à destination de la Chine, qui, je le rappelle, est le sixième producteur de pétrole au monde, mais dont la production ne suffit pas à alimenter la consommation du marché intérieur. Donc la Chine est extrêmement gourmande en énergie. Trump l'a déjà privé de son pétrole vénézuélien. 10% du pétrole chinois venait du Venezuela. Et qu'est-ce que Trump ambitionnait aussi avec cette intervention en Iran? C'est de priver la Chine de 15% de son pétrole qui venait d'Iran, c'est-à-dire à peu près 90% de la production iranienne, si vous voulez. Donc là, Trump n'a pas touché aux installations de l'île de Karg, il n'a pas touché aux structures, c'est ça qui est intéressant, et le pétrole continue d'être écoulé dû au fait que les Iraniens laissent un certain nombre de bateaux passer, les leurs en particulier, les
Donc,
Chinois...
Donc, est-ce à dire, Régis, que les mines, c'est de la merde, là? C'était une invention, c'était psychopathe, c'est-à-dire des menaces, alors parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des mines et que les Chinois puissent allègrement être alimentés en pétrole.
Mais non, c'est-à-dire qu'une mine flottante ne sélectionne pas le pavillon du navire qui passe.
Donc, il n'y avait pas vraiment de mine.
Oui. Non, il y a, à mon avis, il y a pas mal, il y a beaucoup d'intox, attention, autour de ce conflit. Donc il faut être extrêmement prudent. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, et aujourd'hui, l'Iran a décidé d'installer un péage. Ça coûte 2 millions de dollars, payable en yens, très important, vous parlez de la Chine, payable en yens à tout navire désirant circuler sur le détroit d'Ormuz. Donc cette taxe en yens, elle vise évidemment expressément à s'attaquer au dollar roi et à affaiblir l'Amérique. Donc on est dans une grande partie d'échecs, en tout cas menés par les Iraniens, les Chinois évidemment derrière.
Et qu'en est-il de la Russie, Régis Le Sommier, là? La Russie là-dedans?
Bah écoutez, la Russie, on voit déjà les effets. La Russie, en fait, n'a pas vraiment, on va dire, besoin expressément d'aider l'Iran, parce que l'Iran a aidé la Russie dans un domaine fondamental qui est celui des drones. En novembre 2022, sont arrivés sur le champ de bataille en Ukraine des drones qu'on appelle Shahid, revisités par les ingénieurs russes, ça a donné des drones Goran, qui sont devenus un véritable casse-tête pour les stratèges de l'OTAN, qui n'avaient pas vu le coup venir. Ces engins qui volent bizarrement, très difficiles à détruire et surtout très peu onéreux, ils sont à peu près à 20 000 dollars, 30 000 dollars l'exemplaire, nécessitent des défenses antiaériennes avec des missiles qui coûtent peut-être 10, parfois 100 fois le prix de l'objet qu'on cherche à éliminer. Donc, si vous voulez, cette perturbation par les drones Shahid du ciel ukrainien a conduit à la destruction d'une partie des infrastructures électriques ukrainiennes dans l'hiver 2022. Les Russes ont ensuite renouvelé en 2023. Les, Les Ukrainiens ont trouvé des contre-mesures, ont fini par s'adapter, mais ça a été très difficile. Et cette expérimentation du drone Shahid, moi c'est un des enseignements du point de vue militaire que je trouve le plus stupéfiant de cette guerre, c'est qu'on n'est pas imaginé quand les États-Unis, les stratèges américains qui ont conçu cette opération Epic Fury, n'aient même pas imaginé que ces drones qui avaient été employés par les Russes seraient utilisés par les Iraniens eux-mêmes, puisque c'est eux qui les avaient créés. Et ça a été terrible. Toutes les infrastructures de les hôtels dans le centre de Dubaï, l'aéroport de Dubaï, tout ça ont été
avec des drones à 40 000 $.
Oui, c'est ça. C'est fou. Et là, il y a un vrai problème. On peut imaginer que derrière le drone à 40 000 $, il y a aussi toute une batterie d'autres drones que possède l'Iran, que l'Iran, comme je vous le disais, a investi dans l'asymétrique, donc en développant le balistique et en développant les drones, que c'est depuis 1995, rendez-vous compte, qu'ils ont commencé à explorer ce domaine des drones. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les troupes, là, qui pourraient potentiellement venir, ben vous savez ce qu'on va voir comme vidéo, exactement les mêmes vidéos qu'on voit en Russie, avec les drones FPV, alors ce sera peut-être pas les mêmes, ce sera peut-être d'autres, je sais pas, mais qui vont repérer la signature thermique d'un soldat, se précipiter dessus et le faire exploser. Ça risque d'être ça. Alors on aura beau envoyer des forces spéciales ou je ne sais quoi mais ça risque d'être un cauchemar, si vous voulez. Et là, on est vraiment face à un défi stratégique de l'Occident, des États-Unis, d'Israël lui-même, parce que même si Israël a des objectifs plus clairs, qui étaient ceux d'amoindrir l'Iran, n'ayant pas de changement de régime, comme je le disais tout à l'heure, si la guerre se termine par une signature avec des garanties et une paix qui revient, parce que c'est ce que tout le monde souhaite, quelque part, pour le salut de l'économie de la planète, eh bien, forcément, l'Iran aura gagné parce qu'il aura survécu. Voilà.
C'est très bien expliqué. Merci, Régis Le Sommier. On se reparle assurément. Allez consulter Omerta. Merci
avec
beaucoup.
Plaisir.
Bye-bye.
Merci. À bientôt. Au revoir.
Wow, formidable. Formidable. Mon autre question aurait été, mais là, il y a Vance qui va se présenter devant un général, entente peut-être de paix entre les États-Unis et l'Iran, mais ça n'inclut pas Israël, Dan.
Non.
Israël n'est pas autour de la table.
Zéro.
Donc, le conflit se poursuit, mais là, c'est Israël contre l'Iran.
Oui.
Les États-Unis se retirent. Ne participe plus, là. Ben, peut-être, très certainement, financer l'Iran par en arrière avec des armes et tout.
Israël, oui.
Mais Israël, donc on finance Israël par en arrière, mais l'affrontement direct États-Unis, Iran pourrait tirer à sa fin. L'implication de Vance, c'est très intéressant, ça. Très intéressant, ça.
C'est pourrait tirer à sa fin, mais en même temps, c'est parce que je la vois, puis je la comprends, la volonté américaine de vouloir se retirer, parce que les Américains, eux autres, deux semaines
plus tard... Ils sont perdants.
Ouais, exactement. Mais je suis pas certain que l'Iran trouve ça drôle. Que l'Iran trouve ça... En fait, j'ai l'impression que l'Iran va tout faire pour garder les Américains, parce que
absolument.
C'est même que
c'est
ça avance.
C'est ce qu'on dit, là. C'est ça, Wall Street Journal dit ça.
Iran
plays hardball.
Fait qu'à partir du moment où les Américains vont vouloir se tasser, l'Iran va attaquer une base américaine quelque part, parce qu'ils veulent
pour
les ramener.
Que,
exactement.
Ça, pour que les Américains répliquent.
Et voilà, c'est ce qu'ils
parce
veulent.
Parce que tu peux pas ne pas répliquer.
Exact.
Donc, c'est un engrenage. Mm. C'est une gaffe, au final, là, d'avoir attaqué, là.
Ben,
c'est une gaffe, là.
L'attaque, c'est la façon dont il l'a faite. Je pense que s'il avait fait ça selon les normes préétablies pour pas froisser tous les pays alliés, ben peut-être que ça il aurait attaqué trois semaines plus tard, mais que là, il y aurait des navires britanniques, français puis canadiens autour.